Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Je vous propose que nous fassions une lecture dans un texte, dans un passage de l'évangile de Marc. Évangile de Marc. Alors, je vais vous donner un petit peu les circonstances. Cette semaine, ça m'arrive de lire la Bible. Je lisais ce texte tout simple et il m'a inspiré. Enfin, c'est une pensée qui m'est venue dans mon cœur comme ça, que j'aimerais partager avec vous, parce que vous reconnaîtrez que le sujet est quand même assez inédit. Par le fait que très souvent, lorsque nous rencontrons des amis, des hommes et des femmes, ils nous posent toujours cette question à nous, les pasteurs, et peut-être certainement, eh bien, les chrétiens évangéliques que nous sommes, pourquoi les prêtres ne se marient-ils pas? Imaginez-vous. Alors bon, en ce qui nous concerne, c'est pas un problème. Et dans bien d'autres dénominations chrétiennes, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est souvent une question embarrassante pour une grande partie de notre monde, des gens qui nous disent « mais pourquoi ?» Vous, d'accord, on comprend, mais nous. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est venu dans mon cœur et on va l'expliciter. Alors, ce matin, il ne sera pas question du mariage et du célibat, hein, dans les choses indifférentes de la vie, parce que bon, voilà, hein, les choses sont ainsi, mais dans le domaine de la vocation, dans le domaine d'un service, voilà, d'une consécration que nous portons à Dieu, à ce qui est la nature même de notre foi, en quelque sorte. Alors écoutez, dans l'évangile de Marc, il y a cette parole, tout simplement, évangile de Marc, chapitre 1er, verset 29. « En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean, à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre. » Et c'est ce passage où il est question de la belle-mère de Simon. Alors il peut y avoir plusieurs interprétations. Est-ce que c'était une belle-mère par alliance? Parce que comme ça se fait aujourd'hui, eh bien voilà, quand il y a divorce ou séparation et qu'il y a remariage, eh bien les enfants, voilà, se retrouvent avec des beaux-pères et des belles-mères. Mais je crois que ce n'est certainement pas de cette manière que nous pouvons interpeller ou appréhender la situation. C'est que j'ai quand même regardé quelques commentaires, je me suis renseigné et je me suis aperçu qu'il était vraiment la belle-mère de Pierre, donc la maman, la mère de la femme de Pierre. Et puis, à cela fait écho, naturellement, dès les origines de cette parole que nous trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, où il est dit ceci, qu'il n'est pas bon à l'homme, il n'est pas bon à l'homme qu'il soit seul. Et c'est vrai également pour la femme, naturellement. Alors, cette fameuse belle-mère de Simon, je ne sais pas comment elle s'appelait. Ça ne nous est pas dit. Mais on va pas extrapoler et puis on va rester sur les choses les plus évidentes pour que nous puissions comprendre. Et peut-être ça peut nous servir les uns et les autres. Parce que quelquefois nous sommes embarrassés. Je vous dis encore une fois de plus, c'est pas notre problème puisque vous connaissez mon épouse. Ben voilà. Alors donc je suis bien marié. Hein? Et j'ai aussi une belle-mère, par cela même. Mais toujours est-il que c'est quand même quelque chose d'intéressant à prendre en considération, parce que il faut revenir à la parole de Dieu. Vous savez, notre souci, c'est pas de suivre des commandements d'hommes, de pouvoir finalement, eh bien là, enrichir notre foi et notre pété, parce que l'un aurait dit, l'autre aurait dit, ou retrancher, ou ajouter ceci. Ça ne nous concerne pas, enfin, en tous les cas, c'est pas ce qui donne de la valeur à notre engagement et à notre foi. Ce qui donne la force, c'est véritablement ce que nous dit la Bible. Hein? Et encore dans une compréhension, qui n'est pas une compréhension légaliste, c'est-à-dire avec des œillères, mais une compréhension qui est éclairée à la lumière du Saint-Esprit. Et c'est ça ce que nous avons besoin et qui fait que c'est une parole vivante. Alors c'est vrai que la question est un sujet de discussion, peut-être même de dispute. Et il s'agit du célibat qui est en cause. Un débat millénaire, et je vais vous dire pourquoi, parce que je vais vous citer quand même quelques dates. Et c'est un sujet de controverse, auquel j'ajouterai ces qualificatifs. Sujet de controverse douloureuse, voire même dangereuse. Ah oui, peut-être que ça n'apparaît pas comme ça au début de notre échange, mais vous allez voir. Pourquoi le célibat est-il obligatoire dans le service? C'est la question. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est un impératif de Dieu? Est-ce que Dieu aurait-il des raisons pour faire d'un homme qu'il a appelé de le mettre dans l'éloignement du commun des mortels en raison de sa condition de célibat? Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose qui aurait trait à plus de sanctification, plus d'élévation ou de communion avec Dieu? Ce sont des questions que l'on peut se poser. Alors, les choses sont ainsi. Que recommande l'Écriture sainte? Que nous enseigne la Bible, qui quand même, et j'y reviens, est pour tout le monde chrétien, je dis bien tout le monde d'obédience chrétienne, la Bible, l'Écriture sainte, l'Ancien et le Nouveau Testament, s'il faut y ajouter, eh bien, c'est quand même notre seule référence et c'est l'autorité de notre foi. Soit ce sont les hommes qui ont parlé, ou alors c'est Dieu qui a parlé aux hommes à travers la personne de Jésus-Christ, inspirée par l'Esprit, et alors cette parole, elle reste véritablement l'autorité et la force de notre foi. À savoir que Jésus nous dira d'une manière très claire, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » Alors on en est là. Une vieille histoire, figurez-vous, qui trouve ses origines dans l'antiquité du monde. Ah, c'est pas nouveau quand je vous ai parlé de millénaires tout à l'heure. C'est pas une histoire qui est apparue comme ça à un moment donné dans les cours des siècles récents. Non, non, c'est beaucoup plus ancien. Et je parlerai de l'antiquité du monde païen. Alors, on va dire quelque chose là-dessus. Le monde païen, qui était tout emprunt pour ceux qui avaient vocation ou appel à s'approcher de Dieu ou des dieux, parce que parlons au pluriel, si l'on parle de cette époque, eh bien avait vocation, faisait les vœux de continence, c'est-à-dire de célibat. Voilà. Chez les prêtres, par exemple, en Égypte, dans la mythologie égyptienne, les servants ou les serviteurs de la déesse Isis, eh bien, étaient voilà dans cette contingence finalement de ne pas se marier. Il y avait également, eh bien là en Grèce également, des prêtres au service de la multitude, hein, de la mythologie, hein, et il y en avait, on les connaît naturellement, et bien aussi, des exceptions dans ce cas. Les Brahmes aux Indes également, et puis il y avait les Vestales à Rome, donc c'est pas d'aujourd'hui. Dans un souci peut-être d'être plus saint, de pas être distrait par les choses indifférentes de la vie, par les choses secondaires, etc., etc. C'était toujours ça, c'est quelque chose de récurrent dans l'âme humaine, hein. Voilà, il faut être, faut le mieux, il faut être à part, faut être plus saint, et c'est vrai que on essaie de plaire à Dieu de cette manière, mais on est aussi comme des personnages sacrés. Ah ben oui. Il y a comme quelque chose de sacré, il y a une auréole, il y a une aura naturellement autour de ce genre de personnage. Le célibat est bien antérieur au christianisme, hein, puisque je viens de marquer quelques fêtes devant vous il y a un instant. Cette doctrine, alors parlons du christianisme, dans le christianisme, a pour explication, on va tenter d'avancer un petit peu, l'éloignement, ou a pour origine, cet éloignement que l'Église a pris des enseignements évangéliques. Parce que si on était resté sur la parole, eh bien il n'y aurait pas de discussion. Et c'est quand même assez curieux que dans les principales églises d'obédience chrétienne, je pense au catholicisme, je ne suis pas, je le dis à chaque fois, hein, ce n'est pas de l'anticatholicisme primaire que nous faisons. Nous avons un grand respect pour nos frères et nos amis dans le monde dont je suis issu, parce que je ne l'oublie pas, hein, je sais. Moi, j'ai fait comme Paul, hein. Je suis passé du judaïsme, enfin, façon de parler, mais vous transposez, hein, en même temps, hein, véritablement à une connaissance de Jésus-Christ qui me vaut aujourd'hui d'être finalement sauvé et racheté par Jésus, d'accord, hein. Et on comprend que, quelque part, eh bien, si on en était resté là, et ça c'est justement tout l'étonnement, parce que on se dit, mais pourquoi extrapoler, pourquoi sortir des choses si simples que la Bible nous a dites pour aller partir dans toutes sortes de choses? Et cette explication, c'est l'éloignement, en quelque sorte, de l'Église, des enseignements que l'Évangile nous donne et que Jésus préconise. Jésus nous parle du mariage, il nous en parle bien, hein. Et il nous donne tout un cadre d'épanouissement. Combien dans ses paraboles il fait état, finalement, eh bien, de la joie des noces et à Cana où il était. Il était bien aussi avec les mariés. Voilà. Hein? Donc, mais Dieu n'est pas contre le mariage quand même, non? Est-ce que nous aurions péché parce que nous sommes mariés? Et de là, naturellement, deux raisons. Deux raisons improbables. La première, c'est se tenir à l'écart. D'une certaine façon, de toute imperfection et souillure. Est-ce que le mariage constituerait une souillure, puisque c'est Dieu qui l'a sanctifié? Par fausse sanctification, par ascétisme ou légalisme. C'est ce que nous trouvons, hein, dans certaines justifications du célibat des servants, en quelque sorte. La deuxième chose, alors, mesdames, je vais vous traduire ce que d'autres pensent, mais ils ne pensent pas en bien. C'est que, quelque part, la femme, comme étant une source du mal. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est pas ce que la Bible dit, hein. Sur le principe même que c'est par la femme que l'homme a été séduit. Ça va loin, hein. Je ne sais pas si ça ne frise pas l'outrage à Dieu, ça, hein. D'abord, pour le genre en question. Et pourtant, le mariage a été recommandé par le Seigneur, par le Créateur. Parce que vous savez comment il l'a recommandé? Quand il a créé. Et l'homme et la femme, quand il a vu tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est bon. Non. Tout était très bon. Ça, c'est le satisfici du Seigneur. Et puis, j'ajouterai une troisième raison. C'est la considération toute humaine que le célibat serait, soi-disant, plus agréable à Dieu et plus sain que le mariage. Ça, rien n'est prouvé. Et on va en voir quelques éléments d'ici quelques instants. Cette doctrine non chrétienne du célibat, prétendument du célibat des servants, enfin je les appelle comme ça parce que je voudrais peut-être pas trop dire prêtre, mais eh bien, est quelque chose, voire même d'antichrétien, parce que ça ne tient pas, ça ne résiste pas à l'examen. Eh bien, tout cela est devenu obligatoire, une obligation pour tous ceux qui avaient la prétention finalement eh bien d'aller dans ce sens, pour se mettre à part pour Dieu, et il y a de bonnes consciences, il y a de belles aspirations, vous le reconnaissez, qu'il y a des gens qui disent « moi je veux servir Dieu, j'aime Dieu », mais il y a cette obligation qui vient s'interposer. Elle est apparue au IIIe siècle, mais d'une manière très diffuse. Mais par contre, elle a été légiférée au XIe siècle, en 1074, vous vous souviendrez de la date, hein. Oui, c'est comme 1515, hein. C'est pareil, hein. 1074, par le pape Grégoire VIII, qui l'a imposé petit à petit à toute la chrétienté qui était sous sa domination. Alors je peux vous dire qu'ils étaient tous mariés, les prêtres à l'époque. Mais il a fallu finalement les convaincre, oh là là, quand on regarde un petit peu les vagues et les tsunamis qu'il y a eu à cette époque, ça veut dire que, qu'est-ce que l'on fait, hein? Qu'est-ce que l'on fait? C'était imposé, tout simplement. Vous voulez servir Dieu, il faut pas se marier, tout simplement. Pour ceci, pour cela, etc., etc. Je vous avais déjà raconté cette petite histoire, je ne me retiens pas de la raconter encore aujourd'hui. Quand je suis rentré dans le ministère pastoral, il y a maintenant 25 ans, à plein temps, hein, parce que je l'étais déjà, mais c'était autrement, à plein temps, j'avais une collègue, on travaillait ensemble, une brave femme, elle n'était pas évangélique, mais vraiment formidable. Et elle me pose la question quand je lui dis, bah, écoutez, je vais vous quitter, je vais laisser mon travail pour rentrer maintenant à plein temps dans le ministère pastoral. La question qu'elle m'a posée, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire après de votre femme? Moi, je lui ai répondu, je la garde. Imaginez, pauvre Myriam. Bon, mais je crois que Vous avez compris, hein? Parce que dans la mentalité des gens, on ne peut pas servir Dieu. Il faut être absolument, eh bien, une mise à part. Croyez bien qu'on est quand même mis à part, tous les deux, pour vous servir, servir le Seigneur, hein? Quoi qu'il en soit, et ça ne change rien, au contraire. Une imposition forcée n'est qu'un commandement humain, religieux, dogmatique, en flagrante contradiction au commandement de Dieu. C'est ce que nous pouvons découvrir. Selon le principe créateur, disons-le, le mariage est la norme et le célibat l'exception. C'est ce qui confirme la règle, et à plus forte raison quand l'expérience, quand par l'expérience, on sait l'efficacité, la complémentarité du couple pastoral dans l'exercice du ministère chrétien au service d'autrui. On n'est plus un seul, mais on est deux. Et je crois que ça donne une amplification au ministère voulu par Dieu de quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Il y a l'homme et la femme avec deux psychologies différentes mais complémentaires. À travers peut-être tout ce qui peut caractériser un esprit qui est celui de l'homme dans la décision, dans l'orientation, dans une vision tout à fait claire et nette pour la plupart des hommes. Et puis dans cette psychologie peut-être beaucoup plus affective, de proximité, de compassion. Je ne peux pas dire que tout ça, ça va ensemble. Parce qu'il y a aussi quelquefois aussi l'inverse quelque part. On est complémentaires dans tout cela. Et de pouvoir aborder les problèmes de famille, de pouvoir aborder par l'expérience des problèmes de couple, des choses difficiles, des choses compliquées, et qui fait que c'est un enrichissement, figurez-vous, d'être en couple pour servir le Seigneur. Alors nous nous apercevons que tout cela, eh bien, ce sont des choses qui sont importantes, que j'appellerais peut-être même, si vous permettez, si vous me consentez cet excès dans mon langage, aberration du diktat du célibat, et que de vigoureuses paroles que Jésus nous a données par rapport à ça. Finalement, or Jésus, il faut le dire, prévoyant cette misère, parce que c'est quand même une misère de voir des hommes tellement isolés, mis de côté. Il y en a qui s'en contentent. Il y a des gens même qui sont heureux de cela. C'est vrai, il ne faut pas, je veux pas radicaliser, tout le monde est malheureux. Mais il y en a qui ont cette vocation et d'autres qui ne peuvent pas l'avoir et qui font finalement, eh bien, à contre-cœur, parce que c'est comme ça, parce que c'est dans les règles, parce que c'est dans le dogme. Et ça, je crois que c'est quelque chose. Et nous voyons que Jésus va s'élever vigoureusement contre ça, contre ce diktat en quelque sorte, parce que il comprend que c'est un enfermement, ce n'est pas une libération, ce n'est pas une liberté, mais c'est un enfermement, surtout physique et moral. Physique, parce qu'il y a des besoins. L'homme est l'homme, il a des pulsions, des instincts, et le mariage a été fait pour ça, naturellement. Hein. Et puis moralement, imaginez-vous le tourment que ça peut être. Hein. Quand vous êtes dans une situation où tout vous porte à être un homme normal, et qu'il y a là une interdiction, qu'il y a là, voire même, quelque part, une condamnation qui vous exclut, qui vous donne d'être un anathème, et peut-être même de perdre votre salut, c'est terrible. Ouh, quel écartèlement, hein. Écoutez, si je m'en tiens à ce que Jésus nous dit, par exemple, et ça c'est les paroles de Jésus, quand il parlera en substance, je commence par ce texte, mais c'est un peu plus loin qui est intéressant. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Peut-être est-il éloigné parce qu'il a d'autres préoccupations qui le tourmentent et qui le troublent. Car c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors là, nous sommes dans le sujet, hein. Vous abandonnez, dit Jésus aux pharisiens avec tout leur dogme et tout cela. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous observez la tradition des hommes. Seigneur, quelquefois, lorsque j'y pense, moi-même, à travers les siècles, combien d'hommes et de femmes, parce que ça va aussi pour les femmes, ont été véritablement privés d'une vie normale, d'une vie épanouie, d'une vie de liberté. Parce que finalement, eh bien, les hommes avaient parlé et avaient fait taire le Seigneur. C'est problématique. Conséquence inéluctable dans les faits est que cette dénaturation de la vie, de cette altération aberrante qui pousse à l'immoralité due au désespoir. J'y ajoute ça. Oui. Non pas la moralité, mais l'immoralité, ce qui défraie la chronique aujourd'hui. Je suis pas en train de faire le procès avec les événements que nous avons aujourd'hui, c'est pas ça, hein. Parce que j'ai même pas pensé à ça. Mais c'est en le méditant que je me suis dit, mais combien d'hommes et de femmes, enfin des hommes particulièrement, ont été poussés dans des choses qui sont ignobles, immondes, que les choses auraient pu être autrement, hein. Certainement. Alors, immoralité, je l'ai qualifiée, j'ai voulu y ajouter du désespoir. Dissimulation, marginalisation et médiocrité de vie. Vous savez qu'on est heureux avec le Seigneur? Oui? Bah, vous me le dites ou vous me le dites pas, mais c'est tout, hein. Oui, on est heureux avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la foi, à la piété. Et oui, mais Seigneur, c'est vrai, Seigneur. Je voudrais dire aussi peut-être que d'autres sont en attente d'espérance. Mais faites confiance au Seigneur. Je voudrais, le Seigneur est bon, il vous aime. Parce que c'est ça, première motivation du Seigneur, c'est qu'il nous aime. Alors, faites-lui confiance. Mais on reste dans notre cadre, hein, dogmatique, là. Théologie de mise à l'écart, venue, soi-disant, par les ermites. Vous savez, les saints des saints, vous savez, les gens qui, pour servir Dieu, se mettaient dans les cavernes. Pas dans les casernes, hein. Dans les cavernes. Et qui là, s'accrochaient aux arbres. Vivait, il y en a un qui a vécu pendant je ne sais pas des années et des années, monté sur un arbre. Mais ça, quel mysticisme, quelle aberration, quelle représentation finalement du témoignage de Dieu. Hein. C'est venu petit à petit, avec leur doctrine de méditation, de cogitation soi-disant spirituelle qui n'avait plus rien de spirituel. Ils se sont dit, pour véritablement vivre plus près de Dieu, eh bien il faut s'en renfermer, il faut aller dans les antres de la terre, il faut surtout plus avoir personne autour de soi, il faut vivre seul, etc. etc. Et c'est cette doctrine séduisante, séductrice, qui a pris le pas finalement, et qui a amené, eh bien, finalement, tout simplement, préconisant la supériorité du célibat dans l'isolement et le retrait de la vie séculière. Écoutez ce que nous dit, par exemple, Paul aux Colossiens. Et si ça a été écrit, c'est qu'il y a certainement des raisons. Et il est dit ceci au chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne de vous ne fasse sa proie par la philosophie religieuse et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement, eh bien, en lui. Et puis un peu plus loin, au verset 16, on va continuer, il est dit, que personne donc ne vous juge au sujet du boire et du manger, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et du sabbat, au sujet de ce que vous êtes marié ou pas, on peut l'ajouter ça aussi. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, que personne, sous une apparence d'humilité, ou par un culte des anges, qui n'a rien à voir avec la véritable spiritualité, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, etc. Et je reprends un peu plus loin. 20. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes, ils sont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils inculquent un culte volontaire et de l'humilité, et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert à satisfaire la chair. À satisfaire quoi? L'orgueil. Non pas tant l'orgueil de ceux qui en sont les victimes, mais l'orgueil de ceux qui leur imposent d'être ainsi. La liberté évangélique s'établit dans l'équilibre. Paul, le rare célibataire de l'évangile, je voudrais quand même le signaler. On a dit peut-être que Jean n'était peut-être pas un homme marié, mais ça, on n'a pas eu trop la preuve, Jean l'apôtre. Mais en tous les cas, une chose que nous savons, c'est que Paul était célibataire. Il écrira un jour cette parole dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et il posera la question parce que ça le concernait sur un autre point, mais néanmoins il la pose quand même, chapitre 9 et au verset 5, il dira ces paroles, il dira ceci. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire, chose indifférente de la vie et nécessaire? Et il ajoutera, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur? Et Céphas, Céphas qui c'est Pierre? Ben oui. Vous avez remarqué comment il a dit les choses? C'est un droit, c'est une liberté, c'est une grâce de Dieu. Et Paul le dit, il l'explique. Mais est-ce que nous n'avons pas le droit? Et comme font les autres apôtres? Et les autres apôtres dans l'église primitive, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient célibataires ou ils étaient mariés? Eh bien, ils étaient mariés. Ça va, vous suivez? Oui, oui, ça va l'air de vous intéresser. Et puis, venons-en aux enseignements pratiques et moraux du Nouveau Testament. Dans le livre des Hébreux, c'est toujours la vie conjugale, hein? Alors, dans Hébreux, au chapitre 13 et verset 4, il est dit ceci, comme une règle, comme une généralité, hein, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Bon, ça, on a compris, c'est à caractère moral. Mais une chose qui est certaine, c'est que, quand même, quelque part, le mariage est mis en position dominante, en quelque sorte, de respect, et de respect, d'honorer, naturellement. Donc, il y a quand même des principes, et je crois que le mariage, lorsqu'il est dans les meilleures conditions voulues par Dieu, selon la volonté de Dieu, c'est pas une souillure, hein. La souillure, c'est le contraire, comprenez? Voilà. Et peut-être, justement, aujourd'hui, nous sommes dans une société, je ne juge pas, hein, croyez bien, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mariage, ça n'existe plus le mariage, non? Quelquefois, oui, mais qui donne une liberté d'aller où on veut, de faire ce que l'on veut, d'échanger, de prendre et de rejeter, et tout ça, c'est une misère. C'est une misère, franchement, parce que l'épanouissement ne peut pas se trouver, le vrai bonheur ne peut pas se trouver là, enfin à mon sens. Hein. Et je ne fais pas la morale, hein, pas du tout, mais c'est une constatation par les faits qui nous reviennent, que tous ceux qui, malheureusement, sont tombés dans ce genre de traquenard et de piège, ce sont les gens les plus malheureux du monde. De vouloir être aimés pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils peuvent donner et procurer aux autres. C'est terrible. Parce que on peut être célibataire, mais un célibataire, il a peut-être cette notion du célibat, mais c'est pas pour ça qu'il a fait vœu de chasteté. Hein. Différent, hein? Ah, c'est différent. Alors, on va aller un peu plus loin. Très vite. Maintenant, nous allons voir les conditions ou la vocation et les conditions de ceux qui sont appelés au service de Dieu. Il y a quelques principes qui régissent le couple et la famille. C'est Paul, le célibataire qui nous a jamais autant parlé que du mariage, vous vous rendez compte? Hey, c'est Paul, hein? Et dans ce qu'il écrira à son ami Timothée, parce que Timothée c'était un jeune et un futur pasteur. Oui, oui, il se préparait certainement au ministère pastoral, et il va lui donner des principes de vie en Église et des principes qui sont bons pour l'épanouissement. Dans 1 Timothée, au chapitre 3 et versets 2 à 4, il est dit, il faut donc que l'évêque, alors l'évêque c'est l'ancien, c'est le serviteur, c'est le pasteur, c'est, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas celui de l'évêché en tous les cas. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Écoutez bien la suite. Mari d'une seule femme. Ben, ils étaient tous mariés dans le Nouveau Testament. Mari d'une seule femme, pas de deux. Faut pas voir les tentations de Salomon, hein. Parce que lui, il en avait 800. Ça fait quand même un peu beaucoup, hein. Oui. Enfin, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit pas adonné au vin, enfin bon, à toutes sortes de choses comme ça. Mais moi, ce que je retiens, mari d'une seule femme. Donc la norme, c'est qu'ils étaient mariés, puis ils étaient mariés dans les conditions de la monogamie voulue par Dieu, naturellement. On est dans le Nouveau Testament, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Hein. Alors ça, c'est quand même intéressant. naturellement. Mais voici aussi quelques avertissements solennels contre les fausses doctrines que j'ose appeler pseudo-chrétiennes. Pseudo-chrétiennes, cause de désastres moraux, de désastres psychologiques, et aussi procurant toutes sortes de tortures de cœur, de l'âme et de l'esprit, qui rend les hommes coupables, ou qui font qu'ils sont coupables. Et ce sont des règles que je pourrais qualifier d'infernales et également surhumaines. C'est encore Paul qui nous dit dans 1 Timothée, chapitre 4, on va les voir, verset 1er et verset 3. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, que dans les derniers jours, dans les temps du christianisme, dans les premiers comme dans les derniers, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus comme référence la parole de Dieu, mais toutes sortes d'autres choses, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans le cœur, ils prescrivent de ne pas se marier. » C'était une prescription, mais aujourd'hui c'est devenu une obligation et un diktat qui rend les hommes profondément malheureux. Un homme restera un homme. Nous sommes enveloppés dans une nature que Dieu a donnée, mais qui est faite, c'est vrai, de bien et de mal. Avec des stimuli, avec des instincts, toutes sortes de choses, dont la nouvelle naissance est là pour véritablement nous délivrer. Et quand il n'y a pas de nouvelle naissance, qu'est-ce que vous voulez que les gens, on ne peut pas les condamner, qu'est-ce que vous voulez, ils sont ce qu'ils sont, hein? Ça serait peut-être beaucoup plus dangereux pour un chrétien qui est passé par la nouvelle naissance et qui finalement, eh bien, ne tient pas compte de cela. Mais les pauvres gens, moi j'ai compassion, hein. Parce que qu'est-ce qu'ils ont comme référence? Ils ont des commandements d'hommes. Et pas forcément, eh bien, cette parole éclairée de l'Esprit de Dieu qui nous enseigne ce que peut être véritablement le bonheur de marcher avec Dieu, de marcher dans sa volonté et de marcher dans l'équilibre. Prescrivant de ne pas se marier. Alors je termine. Pierre, Céphas, Simon, Pierre, était donc un homme marié. Vous êtes convaincu maintenant? Si vous n'êtes pas convaincu, je recommencerai tout à l'heure, hein. Je veux vous convaincre. Non, Pierre était donc marié. Il le rappelle, et je le redis, n'avons-nous pas le droit d'avoir avec nous une sœur qui soit notre femme? Ça veut dire ce que ça veut dire. Comme sont les autres apôtres et Céphas. Simon-Pierre. Maintenant, peut-être quelqu'un va objecter, parce que c'est biblique, et vous avez raison, objectera, mais Paul était célibataire. Et pourtant, quel apôtre et quel apostolat! On pourrait peut-être faire la relation que son apostolat si fort, si grand, si glorieux était le résultat de son célibat. Tiens. Non. Tiens, vous le dire. Si on voit dans l'Ancien Testament ce qu'a pu être un Moïse qui était marié, bah oui. Vous souvenez comment elle s'appelait sa femme? Ça voulait dire petit oiseau. Séphora. Bah, bien sûr que tout le monde connaît Séphora. Hein? Samuel, dont la maman à sa naissance avait fait vœu pour lui de Naziréa. Vous savez ce que ça voulait dire? Bah tiens, entre autres, voilà, pas de boisson enivrante et puis pas de mariage et tout ça. Eh ben Samuel, il était quand même marié. Vous connaissez l'histoire de ses fils? Bah oui, parce que dans la Bible, il y a toute une histoire sur les fils de Samuel. Donc il était marié. S'il était marié, il a eu des enfants avec une femme. Parce que bon, aujourd'hui, il faut s'y retrouver, mais toujours est-il que c'est quand même quelque chose de logique. Et voilà, et vous en avez d'autres. Je crois qu'il faut véritablement revenir et que notre pensée, nos principes soient vraiment calés sur la parole de Dieu. Ça, c'est important, hein. Alors, Paul était célibataire. Et quel apôtre? Quel apôtre? Eh bien, on va le laisser parler brièvement. Et vous allez voir qu'il nous dit des choses qui sont quand même fort intéressantes pour nous savoir où nous devons, ce que nous devons faire, ce que nous devons passer. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, et c'est vraiment le chapitre où il aborde, lui, le célibataire endurci, parce qu'il aborde des choses quand même assez patentes. Alors, je vais lire cette première partie. Pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, parce qu'ils se posaient déjà des questions, les Corinthiens à l'époque, on doit se marier ou on doit rester célibataire. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, de se marier, si vous voulez aller par là. Bon, ça c'était sa version, d'ailleurs il le dit, hein. Ça, c'est mon idée à moi. Hein. Ça ne vient pas forcément du Seigneur, mais c'est quelque chose qui est personnellement pour moi. Pour moi, ça vient du Seigneur, mais pour les autres, je ne peux pas l'imposer. Hein. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, c'est du bon sens, que le mari rende à sa femme ce qui lui est dû, ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, et ça c'est l'équilibre, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente, en raison de votre manque de maîtrise. Écoutez, nous avons tous les ingrédients de l'équilibre, de la vie normale, de la vie conjugale, de l'amour, parce que c'est ça, le mariage, c'est pas seulement d'être l'un avec l'autre, mais de s'aimer. Et quand on s'aime, alors à ce moment-là, cette fameuse parole qui fait bondir les dames de tous les temps, « Femmes, soyez soumises à vos maris », moi je comprends pas comme ça. Pas du tout, parce que si le mari sait aimer sa femme, la soumission, mais c'est de l'amour et de l'amour, tout simplement, on arrête avec tous ces discours. Bien sûr, le fondement dans tout ça, c'est l'amour. Si moi j'aime ma femme et ma femme retourne, mais il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de discussion, c'est bien comme ça. Et on rentre à ce moment-là dans l'épanouissement et l'harmonie que Dieu a donné au couple. On en fait toute une histoire de tout ça, hein. Franchement. Je dis cela par condescendance, c'est pour ça qu'il le dit. Hein. Je n'en fais pas un ordre. Merci Seigneur, tu pourrais pas envoyer quand même quelque part dans les grandes instances de ces religions-là mondiales pour leur dire que quand même, il faudrait qu'ils relisent un peu l'évangile. Paul nous dit, j'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Il était célibataire. Moi, j'ai pas envie d'être comme lui parce que finalement, je suis marié. Mais je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Il y a des célibats acceptés et volontaires, mais merci Seigneur. Bon, les autres, c'est peut-être autre chose. Par la grâce de Dieu. C'est difficile. C'est vrai. Mais que chacun tient d'un don. Il y a des gens qui ne peuvent pas finalement vivre sans avoir, eh bien, un mari ou une femme, une épouse ou un époux. Parce que c'est comme ça. Et c'est vrai. Chacun tient quelque chose. Et Paul confessera aussi ceci. Peut-être avait-il des sujets de difficulté. Mais je tiens mon corps en bride. Je pense que Paul, même dans son célibat, devait peut-être avoir des moments de difficulté. Comprenez? Oui. Je tiens néanmoins mon corps en bride. C'est pas parce qu'on a la vocation de célibataire que qu'on peut pas avoir des tentations. En la matière, rien et jamais n'autorise et n'autorisera une règle autoritaire et contraignante d'obligation du célibat. La conclusion, elle est toute simple. Et Pierre était rentré dans la maison de sa belle-mère. Hein, on s'en souvient. La conclusion. Pierre, prétendument appelé le chef de l'Église. C'est la tradition qui l'a fait. La tradition est la légende, ou la légende qui s'est transformée en tradition. Parce que c'est comme ça qu'on présente dans notre monde latin, finalement, l'apôtre Pierre, naturellement. Donc, prétendument chef de l'Église romaine, était de toute évidence et vraisemblablement un homme marié qui avait une femme et cette femme était son épouse. Je mets des détails. Légitime, naturellement. Mais aussi paradoxal que cela puisse être, c'est dans cette même église où l'on a fait du mariage chrétien un sacrement, ce qui n'existe pas chez nous. Mariage, c'est pas un sacrement. Qu'on a décrété et que l'on prône le célibat des prêtres. Ça, c'est paradoxal. Si on se réclame de ce chef et de cette autorité spirituelle qu'est Pierre, lui était marié, et comment se fait-il qu'à travers les siècles, on ait imposé au sacerdoce, à la prêtrise, qu'il y ait des hommes qui ne se marient pas? Ma tête n'est pas assez grande pour comprendre. Non, mais c'est vrai. Vous comprenez pourquoi les protestants ont protesté Ben, je proteste, moi. Doit-on, à ce moment-là, dans ce décret, dans ce dogme du célibat des prêtres, doit-on y voir une affaire de prestige? Une affaire de prestige, de fonction. C'est pas ceux qui sont dedans qui s'en réjouissent le plus, mais ce sont ceux qui l'ont décrété. Doit-on y voir une économie et non une famille à charge de l'institution? Vous n'avez pas pensé à ça? C'est qu'une institution religieuse, quelle qu'elle soit, quand il faut donner pain et nourriture, logement à un prêtre, il est tout seul. Mais si le prêtre vient en disant ben, « j'ai une femme et j'ai 10 enfants », ça coûte plus cher. Vous allez dire que je suis pas sérieux, hein. Est-ce que c'est peut-être une castre que l'on veut faire de tous ces célibataires qui va se distinguer du reste du monde et de la vie séculière sous prétexte de supériorité et de sainteté et d'élévation spirituelle? Nous sommes au-dessus du panier. Nous ne sommes pas comme le reste des hommes qui sont mariés, tout simplement. Mais je termine sur cette note, et là j'y mets tout mon cœur, frères et sœurs, et dans tout le respect que je peux avoir pour ces hommes, pour ces individus, hommes et femmes, cloîtrés dans des monastères, dans ceci et cela, etc. Et je voudrais le dire encore une fois de plus, parce que ce sont des hommes et des femmes que Dieu aime, comme il nous a aimés nous-mêmes. Moi je suis sorti de cette religion, et je sais comment le Seigneur a fait, à travers des crises, à travers des problèmes de conscience, à travers toutes sortes de choses, pour me défaire de certaines choses qui m'étaient tellement fortes, parce qu'on me les a imprégnées, on me les a, dès ma naissance. Terrible, terrible. Alors, je dirais, mais que de souffrances dont nous pouvons avoir compassion, de déchirement de la conscience, de prise, finalement, et bien là, de toutes sortes de choses qui nous empêchent de vivre. Et puis également, tout simplement, de grands chagrins, des erreurs et des fautes dans lesquelles on fait tomber les gens, et voire même des scandales. Ouais. Et solennellement, nous pouvons dire, comme Jésus le dira, mais pour d'autres raisons, mais ces raisons, on peut les intégrer dans ce que Jésus dira. Vous connaissez, l'Esprit du Seigneur est sur moi, nous dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Ah là là! Quel brisement des cœurs quand on est condamné dans une prison de solitude et d'isolement, que l'on ne peut absolument pas rien faire, ni penser, ni être. Voilà, de se contenter de se taire et d'essayer de bouger ses chaînes avec beaucoup de difficultés. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et c'est la parole qui nous donne, la parole de l'Évangile qui nous donne la vue. Fort heureusement, il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont sortis de ce carcan. Et si vous entendez leurs témoignages, ils disent pas qu'ils sont plus malheureux, hein. Au contraire, ils sont arrivés à une, ce qu'ils ont pris le dessus sur eux-mêmes. Et pour renvoyer libres les opprimés, et pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Vous pardonnerez, j'ai eu un petit peu de difficulté parce que j'avais quelques notes. Je voulais des références ce matin et j'ai des problèmes avec mes yeux. Là, en ce moment, j'ai un petit peu de voile sur les yeux. Donc, merci de votre compréhension et va simplement terminer. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, pour cette étude. Et tu connais et tu sais, Seigneur, que notre propos n'était pas un propos polémique. C'était pas un propos de jugement ou de condamnation. Mais, Seigneur, c'est aussi un partage. Avec une véritable compassion, une sincérité de cœur, pour tous ceux et celles qui ont été enseignés de telle manière que cet enseignement est devenu une forteresse de l'entendement, est devenu, Seigneur, une Jéricho, Seigneur, de leur conscience, de leur cœur, de leur pensée, dans lesquelles ils ne peuvent même pas en sortir. Ce sont des prisons, Seigneur. Et quand tu nous dis que tu es venu libérer les captifs, eh bien, c'est pas seulement les chaînes à nos pieds ou à nos mains, mais il y a des chaînes intérieures. Il y a des chaînes au niveau du raisonnement, au niveau de notre entendement, Seigneur, moral, et qui fait que l'on est véritablement, eh bien, enchaîné, tout simplement, alors que nous avons été faits dans un corps qui réclame, lui, la véritable liberté, mais la sainte et la saine liberté. Alors nous te bénissons et nous te rendons grâce. Te prions, Seigneur, ce matin pour tous ceux qui sont en train de crier à toi. Tous ceux peut-être qui sont en enfermement en ce moment, qui se posent et qui se posent les mêmes questions depuis des dizaines d'années, depuis toujours, et qui se disent « Mais Seigneur, réponds-moi, parle-moi. » Alors Seigneur, s'ils ne sont pas là naturellement, forcément ce matin, d'une manière ou d'une autre, tu peux les rassurer, tu peux les consoler, et puis tu peux leur montrer, Seigneur, que ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Venir à Jésus-Christ, répandre notre vie aux pieds de Jésus-Christ, c'est ça la vraie liberté. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Merci Seigneur pour ta parole. Et puis permets, Père éternel, que cette parole aille très loin maintenant. Elle puisse, Père éternel, en effet atteindre, Seigneur, ceux qui ne sont pas immédiatement accessibles. Et tu leur donneras, Seigneur, la grâce du salut en Jésus-Christ et de la vie harmonieuse que nous trouvons dans ton royaume. Merci Seigneur. Amen.